Radio Kapi.
Déraillement d'un train marchandise entre Kisangani et Ubundu. 20 personnes sont mortes, parmi lesquelles des enfants. Bras de fer entre le gouvernement et les importateurs des surgelés sur la baisse attendue des prix de ces produits. Les vendeurs et les propriétaires de chambres froides de Kinshasa disent être fatigués. Ils n'ont pas ouvert leur commerce hier vendredi. Christian Muindo Sikivagua, président de l'Association des parents d'élèves des écoles conventionnées protestantes, est notre invité. Selon cette organisation, la pandémie du coronavirus et l'insécurité dans le Nord Kivu sont les deux principaux facteurs qui contribuent à la baisse de la qualité de l'enseignement dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Bonjour à tous. L'actualité part de la province de la Tchopo. Une vingtaine de morts enregistrées à la suite du déraillement d'un train marchandises sur la voie ferrée reliant la ville de Kisangani au territoire d'Ubundu. Parmi les victimes, on a dénombré 4 enfants. Le gouverneur de province, Maurice Abibou Sakapela, exige une enquête sérieuse afin de déterminer les circonstances de ce drame ainsi que les responsabilités. Jacques Moukonkole nous en parle.
L'accident s'est produit mercredi vers 18h sous une pluie battante. Ce n'est qu'hier que des sources indépendantes ont commencé à livrer quelques bribes d'informations sur ce drame. Selon le président de l'ONG Sauti Alubunga, qui s'est rendu sur les lieux, la surcharge de ce train marchandise en serait l'une des causes. Outre les passagers clandestins, ce train aurait transporté une quantité importante des fûts de carburant, des sacs de ciment et autres. Concernant le bilan humain, 15 corps, dont ceux de 4 enfants, ont été retirés jeudi sous le train. Un rescapé déclare que 6 autres corps ont été récupérés ce vendredi, portant ainsi le nombre de victimes à plus de 20. La même source ajoute par ailleurs que les membres d'équipage ont pris le large après cet accident. Le directeur de la SNCC ne décroche pas son téléphone afin d'éclairer l'opinion sur cet accident. Le gouverneur de province affirme que le directeur de la SNCC dit ne pas reconnaître ses victimes parce que selon lui, personne n'a acheté son billet au guichet. Qu'à cela ne tienne, Maurice Abibou Sakapela demande qu'une enquête soit ouverte et que les responsabilités soient établies. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
En Ituri, un homme a succombé dans une fusillade hier soir au quartier Bankoko à Bunia. Un militaire des FARDC en état d'ivresse a ouvert le feu dans un lieu de deuil, créant ainsi une panique générale, affirment des témoins. La police affirme que l'auteur de ces crimes est déjà aux arrêts. Que s'est-il exactement passé, Clarisse Zindoula?
C'est dans un lieu du deuil qui se tenait au quartier Bankoko qu'un militaire en état d'ébriété a tiré des coups de feu. C'était pendant que des jeunes tentaient de le persuader de regagner son domicile. Une demande rejetée par ce soldat qui a fait recours à son arme. Il a ouvert le feu sur des personnes qui se trouvaient dans le parage, affirme une source de service de sécurité. C'est en ce moment que le fils de la maman décédée où se tenait le deuil sera mortellement atteint par balle. Il a succombé à des blessures quelques minutes plus tard, apprend-on. Il s'en est alors suivi une débandade totale, a déclaré une habitante qui vit dans ce quartier. Le corps de ce jeune d'une trentaine d'années est acheminé à la morgue de l'hôpital général de référence de Bunia. Contacté, la police confirme que l'auteur de cette fusillade est déjà aux arrêts. Son porte-parole, Roger Tibassima, a déclaré que le militaire était en tenue civile lors de l'incident. C'est grâce à la dénonciation faite par ses voisins que la patrouille a réussi à mettre la main sur ces criminels. Bunia, Clarisse Zindoula, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le parquet militaire détaché et PMD de Massissi a désormais un bâtiment autonome. L'ouvrage, construit et équipé par la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice, a coûté 49 000 $ américains. Il a été remis jeudi au vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo, en présence du premier président de la cour d'appel du Nord Kivu et de plusieurs habitants de Massissi Centre. Jules Ngalawamona pour d'autres détails.
Le premier président de la cour d'appel du Nord Kivu, Nicolas Wendy Bandi, en sa qualité de représentant provincial du Conseil supérieur de la magistrature CSM, a tenu à remercier vivement la MONUSCO pour cet appui important qui, a-t-il dit, va aider sûrement cette juridiction à rendre une justice de proximité et de qualité en faveur de la population de Massissi et environ. Après la remise des clés de l'édifice par le chef de bureau de la MONUSCO Goma au gouverneur de province, ce dernier a pris à son tour la parole pour notamment expliquer à la population le bien fondé de l'instauration de l'état de siège qui est, selon la volonté du gouvernement congolais, de restaurer la sécurité et mettre fin à l'activisme des groupes armés. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
Je l'ai dit dans les titres, les chambres froides sont restées fermées hier vendredi dans plusieurs marchés de Kinshasa. Aucune n'a fonctionné au marché de Gambela et dans celui de Matete. Seules quelques-unes ont ouvert aux alentours du marché central. Les vendeurs et propriétaires disent être fatigués d'être victimes du bras de fer entre le gouvernement et les importateurs de surgelés sur la baisse attendue des prix de ces produits. Les acheteurs en pâtissent. Témoignage de Madame Niclette, partie s'approvisionner hier matin au marché Gambela, puis à Matete.
Je suis allée faire ma provision habituelle dans les chambres froides, mais elles étaient toutes fermées à Gambela. Les vendeurs m'ont dit qu'ils sont en grève parce que les prix des vivres n'ont toujours pas baissé là où eux achètent. C'est ainsi que de leur côté, on ne peut pas les obliger à vendre plus bas que chez les importateurs. Ils refusent de vendre dans ces conditions. Après Gambela, je suis allée au marché de Matete où j'ai trouvé la même situation. J'ai acheté ce dont j'avais besoin à l'extérieur, mais c'est un prix encore plus élevé chez les vendeurs qu'on appelle communément les mamans manœuvres.
Les propriétaires de chambres froides se plaignent depuis un temps de pression qu'ils subissent de la part des différents services communaux et provinciaux déployés pour les emmener à baisser les prix de ces biens. Pour eux, les autorités se trompent de cible, puisque si les importateurs chez qui ils s'approvisionnent baissent les prix, eux suivront automatiquement. Et nos efforts pour avoir la réaction du gouvernement provincial n'ont pas abouti jusque-là. Depuis plus d'un mois, les professionnels et administratifs de santé ont amorcé une grève dite « sèche générale » sur toute l'étendue de la RDC. À Bandundouville, au Kwilu, le mot d'ordre a aussi été respecté et la grève se poursuit. Pour Huguette Mpumbu, secrétaire provincial exécutif de l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo, unique en cible, c'est regrettable de constater que le gouvernement reste jusqu'à présent indifférent aux désiderata des grévistes. Elle déplore aussi le fait que certains infirmiers continuent à travailler pendant cette période. Le point avec Irène Baumin.
Débutée depuis le 2 août dernier, la grève des personnels de santé non médecins du secteur public de Bandundu se poursuit sous l'œil indifférent du gouvernement congolais. Constat fait par Huguette Mpumbu, secrétaire exécutif provincial de l'UNIC, Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, au Kwilu, qui s'inquiète.
Le gouvernement fait sourd oreille. Depuis que nous on a commencé la grève jusqu'à ce jour, le gouvernement ne s'occupe pas de ça. Les médecins sont là, ils sont en train de travailler, mais les médecins ne sont pas les infirmiers. Le gouvernement reste indifférent. Nous sommes en train de regretter. Vraiment, nous déplorons cette situation parce que on dirait que le gouvernement n'a pas besoin de la population.
Malgré cette grève dite sèche, certains infirmiers sont présents dans les formations sanitaires et travaillent tranquillement. Chose que déplore Huguette Mpumbu.
Pour ceux qui continuent à travailler pendant que les autres sont en grève, vraiment je leur demande de ne plus aller au travail. Parce que la grève n'est pas facultative comme disent d'autres autorités. La grève est générale. Il faut que tout le monde reste à la maison. Parce qu'aujourd'hui tu peux aller au travail. S'il y a un accident de travail, qui va te défendre?
Pour rappel, cette grève des infirmiers et administratifs du secteur de santé a pour toile de fond l'ensemble des revendications plusieurs fois discutées avec le gouvernement central sans solution, a précisé Huguette Mpumbu. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Maniema, les enseignants demandent au gouvernement central de pouvoir réaliser les promesses qu'il leur a faites. Dans une interview avec Radio Okapi, Maulu Mwanda Mukute, secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, section du Maniema, a fait savoir que cette situation risque de démotiver les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes, et cela au détriment des enfants. Écoutez son appel au micro de Florence Kizalunga.
Il a été promis qu'on paierait les enseignants par palier. Le premier palier, ok, il a déjà été payé. Il reste le deuxième qui ne vient toujours pas, et le troisième aussi. Avant de réaliser ces deux paliers restants, le gouvernement de lui-même a promis d'augmenter 100 000 aux enseignants, chose qui n'est pas encore réalisée jusqu'à ce jour. On vient encore d'annoncer qu'on va payer la prime de brousse pour les enseignants des villages. Cela ne vient toujours pas. Voilà ce qui décourage les enseignants et arrivera même à démotiver les enseignants pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, ça a aussi de l'incidence sur la qualité de l'enseignement. Si l'enseignant n'est pas dans des conditions telles qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, ce sont les enfants qui sont des victimes. Parce que les enseignants sont en train de se poser la question, quel sera leur sort l'année prochaine? Parce qu'au jour le jour, le salaire perd son pouvoir d'achat. Ce salaire ne représente plus rien. C'est pourquoi nous interpellons la bonne volonté du gouvernement de réaliser ses promesses pour que l'enseignant rentre dans des conditions qui lui permettent vraiment d'encadrer mieux l'enfant et pour que la qualité tant attendue soit atteinte. Sinon, on sera en train de former des enfants qui seront inutiles à eux-mêmes et à la société.
Une boutique de minerais sera bientôt opérationnelle au Sud Kivu. Cette annonce a été faite hier vendredi à Bukavu. C'était au cours d'un café minier organisé par la GECOMISKI, la générale des coopératives minières du Sud Kivu. Cette boutique de vente de minerais, une première dans la province, va favoriser notamment une production et va décourager l'exportation illicite des minerais. Des précisions avec Cynthia Bachizi.
Cette boutique des minerais sera une shop virtuelle, mais elle aura également une adresse physique à Bukavu. Plusieurs minerais y seront vendus, mais principalement la cassitérite, tantalite et wolframite, souvent appelés les 3T, ajoutés à cela l'or. Cette initiative favorisera une grande traçabilité des minerais depuis la mine d'origine jusqu'à l'acheteur. Mais elle permettra également une commercialisation avec des prix qui obéissent au cours des marchés internationaux. Peter Barwani, opérateur minier, promoteur de l'idée.
Très souvent en RDC, c'est lui qui vient acheter les minerais et c'est lui qui impose aussi les prix. Alors ce que nous avons fait, nous commençons à la base. Nous équipons, nous finançons, nous encadrons l'artisan. Et dès la base, nous prenons ces minerais, nous étalons les minerais aux yeux du monde des acheteurs. Et ces acheteurs viennent acheter dans les conditions qui sont connues au niveau international. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas imposer.
Notez que l'entreprise minière dirigée par Peter Barwani a ainsi conclu un partenariat avec la GECOMISKI pour la matérialisation de cette boutique des minerais. Cet opérateur minier a pour cela insisté auprès de son futur partenaire sur le devoir de conformité au code des règlements miniers dans le cadre de ce partenariat. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
La jeunesse face au développement de la RDC, tel est le thème de l'exposition de deux jours organisée par la jeunesse des universités de la RDC hier vendredi à Kinshasa. Selon le comité d'organisation, cette exposition qui concerne les œuvres de l'esprit a comme objectif principal mobiliser les jeunes pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Paul Matendo.
Selon Sharon Rose Kapinga, chargée de communication de cette exposition, plusieurs jeunes ont réussi à investir dans les différents domaines socio-économiques.
Certains sont dans la santé, d'autres sont dans la mode, d'autres sont dans l'agro-industrie.
Clarisse Bayekwa, une jeune entrepreneure, elle est dans l'agro-industrie, mais elle fait face à plusieurs difficultés.
À mon niveau, le problème que je rencontre, c'est celui des emballages. Alors nous sommes obligés parfois de recycler certains emballages. Mais puisque le recyclage, c'est quelque chose qui n'est pas encore très très intégré dans notre communauté, voilà, nous faisons face à ce défi-là.
Principal invité à cette exposition, Pierre Kasingedia, directeur général de l'ISTA Kinshasa, parle des réalisations des étudiants de son institution.
Une de nos étudiantes qui va présenter comment produire l'électricité à partir de l'urine. Nous avons une autre étudiante qui va expliquer un système intelligent qu'il a conçu pour détecter les pannes dans les systèmes informatiques médicaux. Professeur Arthur Tcheka, il va présenter notre projet de la production de l'oxygène médical à échelle semi-industrielle.
Cette exposition a été ouverte par le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkulu.
Actualité internationale. Antonio Guterres tiendra une réunion le 13 septembre prochain pour accroître l'aide humanitaire à l'Afghanistan. Les Nations Unies entendent plaider pour une augmentation rapide en matière de financement afin que les opérations humanitaires qui sauvent des vies puissent continuer, précise le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies dans un communiqué. Conflit au Tigré, l'Union africaine demande à l'Éthiopie de laisser un accès libre aux humanitaires. Le Tigré est en guerre depuis 10 mois et est désormais touché par la famine. L'organisation continentale a récemment nommé Olusegun Obasanjo comme son nouveau représentant pour la Corne de l'Afrique. L'ancien président nigérian est chargé du dossier tigréen. L'Union africaine demande aux rebelles du TPLF et au gouvernement d'Abiy Ahmed de mettre fin aux hostilités pour gérer la crise humanitaire.
L'invité.
La pandémie du coronavirus et l'insécurité dans la région du Grand Nord Kivu sont deux principaux facteurs qui contribuent à la baisse de la qualité de l'enseignement dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Cette révélation a été faite par l'Association des parents d'élèves des écoles conventionnées protestantes à l'issue d'une réunion d'évaluation de cette année scolaire dont le rapport a été rendu public mardi. Christian Muindo Sikivagua, président de cette structure des parents, explique que dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur Christian Muindo Sikivawa, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot de cette évaluation?
Comme partenaire de l'éducation, c'était important, au vu de notre statut, de nous mettre autour d'une table, analyser certains points. Et c'était l'évaluation de l'année et l'état des lieux de gestion des écoles.
Sur le plan pédagogique, vous commencez par dire qu'il y a une baisse de la qualité de l'enseignement.
Oui, nous avons constater qu'il y a baisse de la qualité de l'enseignement au vu des différentes modifications du calendrier observées. Nous citons par exemple la situation de COVID-19 où on a arrêté subitement les études et on a délibéré les enfants et les enfants sont montés par fait de délibération. Et aussi dans notre région ici au Nord Kivu, il y a des insécurités récurrentes qui ont eu d'impact dans l'interruption du parcours du calendrier scolaire. Et sans ça, a eu l'impact négatif sur la qualité de l'enseignement et les enfants, nous avons trouvé leur niveau baissé.
Sur la situation de l'enseignant, vous évoquez le fait qu'il existe des enseignants qui ont été promus inspecteurs et ils sont partis avec le numéro matricule qu'ils détenaient dans leurs écoles respectives. Et derrière eux, les écoles ne savent pas prendre en charge les enseignants qui les ont remplacés.
Oui, c'est un défi. Nous, comme parents, au niveau du conseil de gestion et du comité de parents, et a constaté que les enfants étaient en classe sans enseignant, alors que l'enseignant qui était mécanisé, payé, venait d'être promu au bureau supérieur comme inspecteur. Nous nous sommes mis avec les gestionnaires de proximité pour qu'on mette dans chaque classe des enseignants NI comme journaliers à charge de nous parents. Hélas, subitement, depuis certains temps, nous avons constaté des suspensions massives de ces chefs d'établissement dans les écoles publiques mécanisées payées, où on a constaté qu'il y a une perception de ces frais-là à guise de nos cotisations, nous comme parents. Bien sûr, nous ne disons pas qu'il n'y a pas un débordement. Il peut y avoir un débordement à quelconque niveau, mais je voudrais qu'on étudie au cas par cas, qu'on analyse tout ces cas afin qu'on élabore une bonne procédure administrative.
Alors, autre chose, vous recommandez la décentralisation de la production des bulletins. Pourquoi?
Oui, si j'ai bonne mémoire, ça fait plus de 3 ans maintenant, nos enfants n'ont pas de bulletins scolaires parce que le ministère de l'EPST a centralisé l'impression de bulletins au niveau de Kinshasa. Ils impriment le bulletin brillant conforme à la matière selon le programme établi de chaque option. Mais quand le bulletin vient, les originaux qui sont envoyés à quantité insuffisante, ça vient avec des erreurs de pondération et
des rubriques qui manquent.
Avec des rubriques qui manquent et les enseignants se trouvent dans une perturbation à depuis des travaux durs qu'ils sont en train d'amorcer au niveau de l'éducation. C'est ainsi que nous venons implément auprès du gouvernement, auprès du ministère de l'EPST, qu'il y a lieu de décentraliser l'impression des bulletins au niveau de province sous la supervision vision du ministère des tutelles ou lié de récolter l'argent auprès de parents au compte de bulletin et tout centraliser au niveau national et quand nous attendons le bulletin à la fin de l'année, nous nous retrouvons sans bulletin et nous ne savons pas vraiment réévaluer réellement nos enfants. sur base des documents officiels.
Donc, vous voulez dire qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, les enfants n'ont pas de bulletin?
Oui, les enfants n'ont pas de bulletin.
Et s'il y a des mouvements scolaires, comment on
le
fait?
Le mouvement scolaire se fait d'une façon désordonnée. Par exemple, au Nord Kivu 2, même maintenant, nous sommes dans les activités de clôture de l'année scolaire. Et jusqu'ici, les bulletins ne sont pas au Nord Kivu 2.
Et pour terminer, parlons de la gratuité de l'enseignement. Vous évoquez l'impossibilité de la mise en œuvre de la caisse de solidarité.
Oui, c'est extrêmement impossible. C'est-à-dire, selon les orientations du gouvernement, on serait en train de prendre 25% des frais de fonctionnement des écoles secondaires perçus auprès de parents. Les 25% là pouvaient aller prendre à charge les enseignants nouvelle unité au niveau des écoles publiques primaires, les ENI, en attendant que le gouvernement mécanise et paye ses enseignants. Nous avons trouvé que c'est impossible.
Monsieur Christian Mouindo Sikivawa, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.